Paroles de Georges est un podcast réalisé par, pour et avec les élèves du lycée Georges Brassens.
C'est quoi l'émotion la plus forte que t'es ressentie dans le lycée ?
C'est pas de la joie, je pense que c'est plus de la tristesse.
En fait, c'est simple, c'était un midi. Je sais plus c'était quel jour, il me semble que c'était un vendredi.
Ma réponse, elle va être assez particulière dans le sens où ce sera pas un sentiment que j'appelle générique. Donc la tristesse, la colère, la joie. C'est la peur de rater quelque chose.
C'était en physique chimie. Je suis un peu un clown, j'aime bien faire rire les gens.
Moi, je pense que c'est le stress. Le stress a été dominant de ma première jusqu'à ma terminale.
Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était pas tant de la déprime, juste être un peu las et un peu vide intérieurement. Et je pense que c'était 2 jours après la mort de mon papy, parce que j'étais venu au lycée du coup. Et surtout qu'en même temps, il y avait la veillée chez moi et tout, donc c'était grave bizarre comme période.
La cloche avait sonné pour aller à la cantine, car je suis demi-pensionnaire. Et c'est là que je constate que le menu du jour, c'était bœuf-carotte. Et le moment où j'avais mangé, le plat était tellement bon que ça m'a fait voyager. Et j'ai ressenti une joie extrême et je me rappellerai toujours de ce jour.
Un sentiment que j'ai depuis, bon ça c'est depuis déjà un moment, mais ça s'est intensifié je pense à la période du lycée, où vraiment la période du lycée c'est une des périodes les plus ingrates. Et moi je suis tombée dans cette vague de peur de rater quelque chose, de peur de pas réaliser ce qu'il faut réaliser pour avoir une vie sublime et incroyable et voilà.
Et genre le monsieur nous avait dit de nous mettre à l'aise. Et du coup, on était en évaluation et moi, pour me mettre à l'aise, j'ai dit « Monsieur, moi, chez moi, quand je suis à l'aise, je suis allongé et tout. » Et du coup, je me suis allongé par terre, en classe. Je fais mon petite évaluation tranquille. Tout le monde est en train de rigoler, mais bon.
La seconde, ça allait, mais avec les cours qui sont surchargés et même la charge de travail, c'est beaucoup plus de stress. Les profs attendent beaucoup de nous, du coup, voilà. Surtout que je trouve que le lycée prend une énorme place, du coup, dans mon train de vie habituel et ça prend le dessus sur moi, mes activités personnelles ou ma vie à la maison.
Bienvenue à tous à la radio du lycée Georges Brassens. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode, Philippine, Antoine et Thomas. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la place des émotions au lycée. On sait que le lycée est un lieu d'apprentissage et de vivre ensemble. Du coup, les interactions y sont nombreuses. Elles laissent place à des émotions, des sentiments qui nous impactent. Ces émotions sont très peu exprimées librement pour des questions soit de jugement, de normes, mais elles sont aussi très peu exprimées parce qu'on évolue dans un cadre institutionnel. Il faut donc savoir les contrôler, les réguler, mais aussi savoir faire la différence entre notre liberté d'expression, notre vie personnelle et le respect de l'établissement. Face à ces nombreuses questions, on peut se demander quelle est la place des émotions au sein de notre lycée. Et si quelqu'un souhaite prendre la parole par rapport à ça, je vous le laisse.
Non, mais il n'y a jamais de première intervention. Donc on va tout de suite passer à la deuxième intervention. Eh bien, merci de me recevoir sur Radio LGB, je suis donc Thomas. Sur la question de la place des émotions dans le lycée, j'ai l'impression qu'il y a deux questions qui sont impliquées là-dedans, quelle place elles devraient avoir en théorie telle qu'on se l'imagine, on se le fantasme, et quelle place elles ont en réalité. Et j'ai l'impression que dans la théorie fantasmée des nuages administratifs, l'école est un lieu de savoir et de connaissance, et les élèves sont d'abord des élèves, avant d'être des personnes, et donc les émotions, c'est à la maison, ou dans le fort intérieur de leur vie privée, intime et personnelle, et dans la réalité, il y a des émotions partout, c'est-à-dire que que ce soit les membres de l'équipe pédagogique, on a des émotions liées au fait que si on a mis du temps à préparer un cours, à faire une activité qui nous plaît et que ça ne marche pas, du coup on est triste, on est stressé, ça nous renvoie à, oh là là, est-ce que j'ai bien fait mon travail ou ce genre de choses. Et les élèves ont plein d'émotions aussi, même dans un cadre strictement scolaire, genre des émotions liées au fait que l'activité en question les saoule, ou au contraire ils sont joyeux, joyeuses de faire l'activité en question. Donc j'ai l'impression qu'il y a une séparation un peu artificielle entre l'émotion, l'intimité, etc. et le cadre scolaire, alors qu'en vrai ça se mélange tout le temps. Enfin moi je voulais commencer par dire ça, voilà.
Ouais, je vais dire, je suis vraiment d'accord. Enfin, moi quand on a abordé le sujet, je voyais vraiment ça comme ça. Il y a ce qui devrait être et ce qui est. Et en réalité, surtout par rapport à tous les témoignages qu'on a entendus avant, là, on voit vraiment que la vie personnelle, en fait, elle se mêle entièrement à la vie du lycée. Et même la vie du lycée peut empiéter sur cette vie personnelle. En fait, ça se mélange. Et forcément, du coup, les deux ont un impact l'un sur l'autre. Enfin, pas seulement les émotions au lycée, mais le lycée dans nos émotions personnelles. Et c'est hyper important, en fait, de le souligner, quoi.
Ok. Et du coup, face à ce mélange d'émotions qui proviennent à la fois de votre vie privée et du lycée, comment faites-vous pour les gérer dans le cadre du lycée? C'est-à-dire si, par exemple, est-ce que vous arrivez à contrôler ces émotions? Ou même quand vous voyez des camarades qui ne vont pas bien, ou des élèves ou des collègues, est-ce que ça va venir vous impacter dans ce cadre qui est normalement professionnel et qui est dédié à l'apprentissage? Ou vous allez passer par-dessus et faire comme si vous étiez tous des robots uniquement concentrés sur soit l'apprentissage, soit l'effectuation de tâches, ou soit l'enseignement? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.
J'imagine que le point de vue, il dépend d'où on se situe.
Oui, c'est ça, justement.
Thomas pourra peut-être le confirmer à son échelle, mais c'est vrai que lorsqu'on fait partie de l'équipe éducative, on va dire que la prise sur soi, elle fait partie du jeu. Dans le sens où on reçoit beaucoup, mais il est beaucoup plus difficile de donner, et beaucoup plus difficile pour nous de lâcher aussi les émotions qu'on peut avoir sur nous, parce que c'est simplement pas le rôle qui nous incombe. Donc, ensuite, en tant qu'élève, je pense que les émotions, vous êtes à ce moment-là une période formatrice de votre vie, donc il est normal que ces émotions s'entrechoquent et qu'elles se relâchent. On parle souvent de la fougue de la jeunesse. J'ai tendance à dire que les élèves ont le cœur en feu souvent. Tout ce que vous contenez sort à un moment ou à un autre, là où nous, avec les années, on a appris à apprendre un petit peu plus sur nous et à enterrer certaines choses. Ce qui n'est pas forcément bon de faire d'ailleurs, des fois. Mais c'est clairement pas une charge qu'on fait reposer aussi sur les épaules de beaucoup.
D'accord.
Ouais, moi je dirais, en tant qu'élève, en termes de vivre ensemble entre élèves, en fait, on n'est pas des élèves, on est des amis ou des adolescents qui se fréquentent. Enfin, moi, je n'ai jamais eu une interaction avec quelqu'un de ma classe en disant « oui, on est deux élèves ». Enfin, non, en fait, on est deux personnes qui ont le même âge et voilà, quoi, soit on s'entend, soit on ne s'entend pas. Du coup, je pense que clairement, les émotions des autres nous impactent. Enfin, on s'impacte entre nous, en fait, en tant qu'élèves. Après... je sais aussi que le rôle, par exemple, moi personnellement, le rôle de certains, des AED et tout, c'est important aussi pour des fois avoir un regard extérieur. Enfin, comme disait Antoine, les adultes ont, les jeunes adultes ont une expérience qui est différente de la nôtre. Et donc ça, c'est intéressant en fait d'avoir, de pouvoir donner un avis, de pouvoir se confier de temps en temps aussi. Et voilà quoi. Enfin, ouais, voilà.
En ce qui me concerne, je vais donner une distinction théorique et dire la réalité de mon expérience après. Il y a une distinction théorique entre l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. L'empathie cognitive, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que l'autre ressent. Et l'empathie émotionnelle, c'est le fait de ressentir ce que l'autre ressent et d'avoir mal aussi. Voilà. Tu pleures, je pleure, empathie émotionnelle. Je comprends pourquoi tu pleures et je peux te consoler, empathie cognitive. Bon. Et donc, en théorie, quand je vais bien et que je suis en forme, du coup, j'essaye de mettre le max sur l'empathie cognitive. Mais il est arrivé des moments dans ma dans ma longue carrière où j'étais carrément dans l'empathie émotionnelle et c'était un élément difficile. Alors, au tout début, parce que j'ai commencé à être prof très tôt et au tout début de ma carrière, j'avais 2 ans de différence avec l'élève la plus âgée dans la classe, ce qui, du coup, faisait que le rapport affectif aux élèves était un élément auquel je devais faire attention parce que je me reconnaissais beaucoup dans les gens qui étaient en face de moi, vu qu'ils étaient vraiment très proches de moi en termes de génération. Et dans certaines circonstances particulières, c'est quelque chose aussi qui est un élément que je trouve important à gérer. Je ne dirais pas à contrôler, je ne pense pas qu'on peut contrôler les émotions, je pense que ce n'est pas possible, mais à gérer, à essayer de faire en sorte qu'elles soient là sans qu'elles nous envahissent. Je vais donner un exemple, enfin 2 exemples qui disent la même chose. Lorsque la situation elle est attendue, lorsqu'elle est prévisible, lorsqu'elle est cadrée, genre on fait un cours, il y a un exercice et il y a des élèves qui bloquent sur l'exercice, c'est une situation où tous les paramètres sont à peu près connus et on a des stratégies pour pas prendre personnellement le fait que l'élève, ça le saoule de travailler sur ce truc. Bon. Lorsqu'on est dans une situation inattendue, par exemple j'étais prof principal lorsqu'il y a eu le premier confinement, et que je savais qu'il y avait des élèves qui, pour tout un tas de raisons, n'étaient pas super bien dans leur environnement familial, là, je suis dans une situation très inattendue pour moi, et du coup, la bascule de l'empathie cognitive, je comprends, je vais t'aider à... Là, je ressens le truc vraiment de l'intérieur, était assez difficile à gérer. Donc, je pense que, voilà, on fait au mieux, mais c'est plus facile pour moi de le gérer dans des situations cadrées, connues, que dans des situations un peu imprévisibles, un peu inconnues, où là, j'ai l'impression qu'on fait de notre mieux. Voilà.
D'accord. Mais est-ce que du coup, pour vous, il faut laisser plus de place aux sentiments, aux interactions, que ce soit entre élèves ou entre prof et élève, ce qui peut entraîner comme vous venez de dire que ça vous avait impacté personnellement, mais ça peut aussi vous impacter négativement. Donc est-ce qu'il faudrait laisser plus de place à cette expression des sentiments entre les différents membres du lycée ou au contraire, faudrait le réduire?
Comme dit auparavant, je pense qu'il y a toujours la base théorique et oui, la réalité terrain. La problématique là-dedans, c'est que... Comment dire? On ne peut pas annihiler toutes sortes d'émotions. C'est pas un fonctionnement, je pense, qui est sain à ce niveau-là, surtout avec des jeunes adultes en construction. Il faut que vous soyez confrontés à ces émotions pour arriver à les maîtriser, à les appréhender. C'est comme tout, on apprend à se connaître avec le temps et tout ce qui suit, avec les expériences. Vous avez besoin de les confronter aussi du coup, à des membres de la communauté éducative, etc. De manière à ce que vous ayez un apport affectif, mais aussi un apport d'expérience, des échanges, tout ce qui est nécessaire justement à élargir votre champ de vision. Par-dessus... Il y a toute la théorie qui fait que les membres de l'équipe éducative n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire à vous accueillir affectivement de la bonne manière. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, je ne sais pas, d'un professeur qui a besoin de remplir son programme et qui, entre 2 interclasses, a 5 minutes pour échanger avec une classe qui fait 35 élèves. C'est très compliqué d'arriver à recevoir ce genre de choses. Même chose pour les AED en vie scolaire qui reçoivent tant bien que mal à des moments où... À des moments qu'on saisit, en fait, des moments qu'on va saisir dans une semaine, mais ça peut faire 2 semaines que vous essayez de nous parler. Ça peut faire 2 semaines qu'on a aussi envie de vous voir pour mettre en place un dialogue autour d'une situation particulière, etc. Donc c'est toujours très compliqué, vu que c'est pas un cadre qui favorise énormément l'affectif. Et puis ensuite, il y a toute la question aussi du est-ce qu'on doit absolument laisser ressortir l'affectif. C'est aussi bon, je pense, d'arriver à garder une part de retenue. Parce que c'est sans doute pas le bon terme, mais c'est de l'endurcissement pur et dur. On a tous des périodes qui sont parfois un petit peu compliquées, et parfois les ressasser ne sert pas à les traverser plus facilement. Tout dépend de si on a besoin d'écoute, si on a besoin de conseils aussi. Il y a énormément de questions, en fait, beaucoup de facteurs humains qui rentrent en jeu pour savoir s'il est nécessaire ou non, enfin s'il est productif ou non, de relâcher ses sentiments à tel instant, vers quel public. Il y a énormément de choses, mais voilà, au niveau de la communauté éducative, je pense que c'est très compliqué d'arriver à trouver le temps pour accueillir ces émotions et pour les diriger, parce que c'est un travail qui prend du temps, je pense, qui demande d'être précautionneux avec les élèves. Et c'est un travail qui demande du temps, J'avais un terme qui suivait, mais je l'ai oublié. C'est comme ça, je suis très volatile. J'y reviendrai si j'arrive à le retrouver.
Et volatile est un très joli terme.
Ouais, j'aime beaucoup, j'adore tout ce qui est
très belle consonne. Ouais. J'aime.
Moi, tout ce qui vole. C'est le pro des mots. Des mots adaptés.
Bon, on a un sacré joueur en face.
Ouais. Non, moi, je voulais dire. Je trouve que vraiment, c'est hyper mauvais de vouloir annihiler, comme disait Antoine, les émotions. Enfin, au niveau des élèves, en tout cas, j'ai pas envie de dire des élèves, mais. Des jeunes qui se trouvent ici, quoi, parce que j'en parlais avec une amie, enfin, qui me racontait vraiment son vécu, et c'est la pire chose qu'elle ait pu vivre, en fait. C'est la pire chose qu'elle ait pu vivre, c'est vraiment de plus ressentir d'émotions, d'arriver à un stade où tout était tellement fort que on lui a dit non, mais contrôle tes émotions, et au final, il n'y en a plus. Et je pense que nos émotions, c'est aussi une grande partie de qui on est. Enfin, moi, je sais que je suis une personne joyeuse et c'est ce qui me rend heureuse et enfin ça fait aussi qui je suis, quoi, et vraiment tant mieux pour moi, c'est une des émotions prédominantes, mais je veux dire on peut pas les annihiler, enfin on peut pas les enlever, c'est hyper dangereux pour notre personnalité et puis comme disait Antoine, ouais, notre construction en fait en tant qu'être humain, en tant que futurs adultes, c'est assez instable comme période, et là on va rentrer dans des études supérieures et tout, on va peut-être se retrouver seul avec nous-mêmes, seul dans un pays qu'on connaît pas, dans une ville qu'on connaît pas. C'est important d'être assez stable avec soi-même, un minimum quand même. Voilà.
En ce qui me concerne, j'irai à peu près dans la même direction, à savoir que c'est très compliqué et probablement mauvais de chercher à annihiler les émotions. Après, je trouve que c'est pas... comment dire, est-ce qu'il faut les réduire ou les accueillir? Je trouve que c'est un peu une vision on-off du truc, alors que c'est plus une... je dirais, soit une forme de gradient ou une... Enfin, pour moi, la question serait pas est-ce qu'il faut les accueillir ou est-ce qu'il faut les jeter à la poubelle, mais comment les gérer, qu'est-ce qu'on fait quand elles sont là, parce que de toute façon, elles sont là. Et je voulais dire des trucs... je voulais dire des trucs concrets aussi, mais je suis en train d'oublier. Oui, voilà, j'avais une petite métaphore. Les émotions, c'est un peu, je trouve, une sorte de signal d'alerte de ce qui nous intéresse, nous plaît, nous plaît pas, nous fait mal. Et c'est un peu comme une alarme sur le cadran d'une voiture. Et du coup, se dire, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'alarmes qui clignotent sur le tableau de bord ou est-ce qu'il faudrait pas les voir? Je trouve que c'est c'est ne voir qu'une partie du problème, puisque les émotions, elles s'activent pour tout un tas de trucs différents. Et elles s'activent pour des trucs sociaux. Par exemple, j'ai révisé un petit peu. J'ai vu qu'il y a un rapport de l'UNICEF, qui est le fonds de l'ONU pour les enfants, qui montre que, à La Réunion, près de la moitié des enfants sont pauvres. C'est 6 enfants sur 10 en Guyane, 8 sur 10 à Mayotte et 2 sur 10 dans l'Hexagone. Donc, si les enfants, ils n'ont pas à manger, ils vont avoir des émotions qui vont les impacter. Donc, il y a une partie sociale dans l'émotion et nous, on n'a pas la main dessus. Mais on sait qu'elles sont là et on ne peut pas les faire disparaître. Pardon. Je dis pardon parce que j'ai cogné dans le micro. On ne peut pas les faire disparaître en disant gère tes émotions comme tu veux, parce que si la personne elle a faim ou elle n'a pas l'argent suffisant à la maison, ou si elle n'a pas une pièce séparée et qu'il y a une connexion pour toute la famille et qu'elle a du mal à dormir parce que tout le monde fait du bruit, enfin il y a plein de trucs matériels vraiment qui impactent les émotions à l'école, et nous on reçoit ça et on ne peut pas le gérer par des bons conseils de développement personnel, nous, ou des recadrages. Moi je dirais peut-être le rôle que moi je vois, que personnellement j'essaye d'avoir concernant les émotions des élèves, c'est que les émotions sont accompagnées de pensées ou de jugements. C'est-à-dire que, je suis un ami, une amie arrive en retard, du coup j'ai une émotion de colère parce que je me dis ça se fait trop pas. Ou alors j'ai une émotion de joie parce que je me dis elle va bientôt arriver, ou alors je compatis parce qu'elle m'a envoyé un texto pour me dire elle est dans les embouteillages. Du coup, moi j'ai pas la main sur les émotions des gens, mais j'essaye d'avoir des discours, des jugements sur les élèves qui vont avoir un impact indirect sur leurs émotions, genre leur dire que c'est pas la fin du monde s'ils ratent l'exercice, mais que l'exercice n'est qu'un exercice. J'essaye de calibrer mon discours pour qu'il soit le plus neutre slash bienveillant possible, en sachant bien que j'ai pas la main sur tous les boutons qui activent les émotions, mais j'ai au moins la main sur celui-là, à savoir quel discours je transmets aux élèves pour pas que leurs émotions négatives s'aggravent. Mais ça n'est qu'une partie du problème.
Du coup, j'allais dire, la période... la période du lycée, souvent, les personnes qui viennent étudier dans l'établissement ont entre 15 ans et 18 ans. C'est la période où on va commencer à être responsabilisé, où souvent on a une certaine pression, soit au niveau familial, soit au niveau scolaire, parce qu'on entre dans notre vie d'adulte. Et donc, je vais dire quand même que c'est courant que certaines personnes se sentent soit mal à l'aise, soit... mal à l'aise, et qu'elles vont venir chercher du réconfort. Et parfois, quand le réconfort n'est pas présent au sein de la famille, ils peuvent se tourner vers l'établissement scolaire. Du coup, est-ce qu'il y a des cours, des enseignements ou des services qui prennent suffisamment en charge la question de notre bien-être émotionnel au lycée ?
Alors moi, à mon échelle, j'ai tendance à croire qu'on n'a pas le terrain. On n'a pas le terrain fertile qui permettrait justement d'accueillir ce genre de professionnels, dans le sens où la détresse émotionnelle est souvent prise en compte à l'extérieur, c'est-à-dire que des élèves avec des jeunes qui vont mal chez nous vont souvent être envoyés vers des centres médicaux de proximité, vers la CASADO, vers un certain nombre de professionnels de la santé qui sont du coup spécialisés là-dedans. On se retrouve avec la même problématique, c'est-à-dire que dans la masse, un certain nombre de cas critiques vont être renvoyés vers des professionnels, mais pour les autres, c'est un peu chacun pour soi. Chacun porte sa croix à sa manière. On prend un maximum de choses. Je pense que ceux qui fonctionnent par l'humain, dans les équipes éducatives, prennent un certain nombre de choses sur eux. Il y a toujours cette question de temps qui revient, la question du temps nécessaire à traiter correctement une situation, à écouter la personne, à savoir si elle souhaite de l'écoute ou du conseil, à la suivre dans le temps aussi, parce que le changement se fait pas comme ça. On n'a jamais modifié notre comportement par de belles paroles. Il y en a qui ont un déclic, ça reste quand même relativement rare. Souvent c'est un événement important qui provoque un déclic, mais pour l'avancée quotidienne, elle se fait petit à petit, et c'est plusieurs mois, plusieurs années après qu'on se rend compte qu'effectivement on a évolué, notre manière de faire a évolué, etc. Et ce suivi, on n'est malheureusement pas dans un cadre qui permet, je pense, de l'assurer. Donc les quelques personnels spécialisés vont souvent récupérer les cas critiques, les renvoyer vers du médical, du professionnel extérieur. Mais pour la suite, c'est souvent plus compliqué d'arriver à accueillir chaque personne en fait, à son échelle, et de s'assurer si elle va bien, si des sujets doivent être abordés, etc.
Et moi j'ai déjà dit des trucs. Et longtemps on n'a pas entendu Philippine.
Non, mais moi j'ai pas, je suis pas assez, j'ai envie de dire qualifiée. Enfin, j'ai pas les connaissances qu'il faut pour pouvoir dire si au lycée ou pas. Enfin, à mon sens, ouais.
J'allais dire, après tu peux aussi voir, est-ce que toi, si t'as un problème, si tu te sens mal, tu te sens libre, ou il y a quelqu'un au lycée où tu te dis, je pourrais aller lui en parler pour me sentir bien, je sais que ça va me remonter le moral, ou je sais qu'en tout cas il va écouter mes problèmes.
Oui. Oui, non, oui, déjà, j'ai de la chance, j'ai un bon groupe d'amis, déjà, c'est important, enfin, vraiment, sans ça, ça serait compliqué, et au-delà de ça, oui, après, je le dis, c'est très personnel, mais Antoine, par exemple, je sais que ça a été quelqu'un de très important, enfin, quand ça allait pas, et même que j'avais pas envie de parler ou quoi, de savoir qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour, pas forcément pour... Enfin, si, pour dire les bons mots, mais après, ça, c'est très personnel. Enfin, je veux dire, s'il n'y arrivait pas, tant pis, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas le cas, mais voilà. Enfin, juste le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour écouter, c'est important, en fait. Qu'il soit disponible, qu'il se rende disponible, en fait. Voilà. Après, je pense que ça, c'est très propre à chacun. Enfin, ça, c'est vraiment propre à moi. Il se trouve que Antoine, il m'écoute, c'est cool. Mais je veux dire, ça va pas forcément être le cas de tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance de trouver quelqu'un, c'est... Voilà, mais je pense que... Enfin, moi, je suis aussi assez extravertie, c'est pas... Enfin, j'ai pas beaucoup de mal à dire quand ça va pas. Enfin, après, ça dépend dans quelle mesure, mais voilà. Mais je pense que, effectivement, pour des gens qui seraient plus renfermés sur eux-mêmes, qui vivraient des choses assez compliquées, même assez compliquées à exprimer. Enfin, ouais, des sentiments qu'on a du mal à formuler. Si déjà, personnellement, avec notre entourage familial, tout c'est compliqué, j'ai du mal à voir comment au lycée, sachant que tout est assez cadré, et puis ouais, surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'on met bien le cadre sur le fait qu'on soit au lycée, dans un endroit pour étudier simplement, etc. Et je trouve que c'est dommage, hein, on fait l'impasse sur la réalité, en fait. Enfin, on essaie de construire un peu une utopie scolaire, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, on est là tous avec nos réalités, ce qu'on porte, et actuellement, bon, y a des trucs qui sont mis en place, la PsyEN et tout, voilà, mais est-ce que concrètement, ça aide? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu expérimenter, moi, c'est vraiment un je ne sais pas, c'est pas un je ne sais pas qui dit non, c'est un vrai je ne sais pas. Voilà.
Je tiens à préciser que Philippine était sur mon contrat d'embauche, en petite ligne, tout en bas de page, je n'ai pas choisi cette situation. Mais pour rebondir sur quelque chose quand même qui est intéressant, effectivement, c'est t'as parlé de ceux qui sont renfermés. C'est beaucoup plus compliqué pour nous également, dans la masse justement, d'aller chercher ceux qui sont renfermés, parce qu'on aura tendance toujours à accueillir ceux qui viennent nous voir. Ceux qui viennent nous voir ont souvent soit un besoin flagrant d'écoute, soit déjà entamé le travail qui leur permet en fait d'aller chercher une réponse à leurs émotions. Donc c'est plus compliqué d'aller faire le travail de fond nécessaire et d'aller creuser dans l'intimité, on va pas se mentir, hein, dans tous ces sentiments, dans l'intimité de ceux qui ont toujours eu ce réflexe de s'enfermer, ça va être long. Je reviens souvent sur la longueur des choses, mais effectivement, bon, les années au lycée passent vite, mais ça reste quand même long d'arriver à faire un tri dans ses émotions pendant cette période. Donc on aura toujours tendance, voilà, à accueillir ceux qui viennent nous voir et à avoir un peu moins de marge de manœuvre à aller voir ceux qui ont décidé de faire leur chemin tout seul, en fait.
J'aimerais compléter de façon personnelle aussi, parce que bon, l'une de mes stratégies de défense préférées pour gérer mes propres émotions, c'est d'utiliser la connaissance et les trucs théoriques. Donc bon, j'essaye en même temps en live d'essayer de contrecarrer ce biais, mais dans lequel je retourne facilement. Donc pour le dire de façon un peu personnelle, déjà, je remercie d'avoir posé cette question-là sur le mal-être des élèves, parce que, en France, par exemple, le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-25 ans. Donc, c'est quand même une réalité à laquelle on est confronté de fait, même si ça ne se voit pas de façon flagrante. Et ensuite, du coup, concernant mon rôle à moi, en tant que prof, déjà... Bon, on l'a déjà dit de différentes façons, mais on n'a pas le pouvoir ou la main sur tous les leviers qui provoquent les émotions. Et c'est très bien, mais je le dis aussi comme une adresse à moi-même, c'est très bien de se désengager du fait qu'on s'imagine qu'on va pouvoir rétablir les choses de façon parfaite, qu'on va sauver les personnes concernées des situations qui les atteignent. En particulier, si ces situations sont enracinées depuis longtemps, si elles sont dans des trucs matériels sur lesquels on n'a pas la main, etc. Bon. Pour revenir au truc personnel, j'ai encore réussi à y échapper. mon vécu d'élève, moi, personnellement, parce que là, je parle de mon vécu de prof par rapport aux émotions des élèves, ce qui est un peu une mise à distance. Quand j'étais élève, moi, mon émotion dominante, c'est la honte, liée au sentiment d'imperfection, la pression scolaire, je veux être premier, et puis j'y arrive pas. Moi, je ressentais beaucoup cette pression-là, et je ressentais de la honte et de la tristesse à tous les niveaux. Bon, et maintenant que je suis prof et que je fais ce que j'ai pu dans ma vie pour dealer avec ces affects, ce qui me tient à cœur en tant que prof, c'est au moins de ne pas nuire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément agir positivement pour changer des trucs, mais on peut éviter de nuire. Et moi, dans les souvenirs que j'ai, je me souviens de professeurs qui n'avaient pas forcément une attitude neutre à mon égard, mais qui appuyaient de façon négative sur ce que je pouvais ressentir. Genre, tu m'as vraiment tellement déçu, je pensais que tu pouvais faire mieux, mais en fait, je crois que tu ne vaux pas ce que tu t'imagines. Enfin, des trucs, voilà, j'ai des souvenirs très précis de ça, mais bon, je ne vais pas... les développer exhaustivement, mais j'en ai, ils sont bien gravés dans ma mémoire. Je me dis que ne pas nuire, c'est déjà ce que je peux faire. C'est-à-dire que je partage pas, mais c'est pas un truc théorique. Dans mon expérience personnelle, je trouve que ma position de prof est une position qui me permet d'avoir un rôle peut-être plus simple à ce niveau. C'est-à-dire que, par exemple, je prends des trucs basiques, je commence tous mes cours en disant « Bonjour, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, je compatis, et voilà, et puis je passe. » et c'est rien du tout. Quand les gens, comme ça m'est arrivé, viennent me voir à la récré pour me dire « Alors, j'ai essayé de me tuer la semaine dernière, ce qui m'est déjà arrivé. » Eh bien, du coup, alors déjà, il y a des trucs légaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder des situations où les gens se mettent en danger pour soi-même quand on est personnel de l'éducation nationale. Donc, il faut faire remonter le truc immédiatement, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Mais en dehors de ça, comme je ne suis pas un ami ou un membre de la famille ou une personne proche, je peux ne pas nuire en dehors des trucs légaux que je viens de rappeler, en recevant quelque chose de difficile sans exploser. Je peux juste ne pas nuire. « Ah d'accord, je comprends, ça va être vraiment difficile, il va falloir en parler à Bidule, je vous accompagne. » Et c'est tout. Et j'ai l'impression que le fait pour moi d'être dans un rapport un peu plus ou moins distant, c'est-à-dire que les élèves me voient, ils me connaissent, on a un rapport familier mais qui n'est pas un rapport intime, pour moi, ça rend plus facile le fait d'accueillir leurs émotions en essayant de ne pas nuire. C'est-à-dire, en accueillant, en apportant une parole neutre, en écoutant et en redirigeant vers les personnes qui sont plus qualifiées que moi. Et c'est pas beaucoup, mais juste le fait de faire ça, j'ai l'impression que c'est parfois le maximum de ce que je peux faire et que c'est pas trop, trop mal. Voilà.
Ouais. Moi, j'ai envie de rajouter un truc. Je pense que aujourd'hui, enfin, il n'y a pas vraiment de... Enfin, s'il y en a, mais de personnel qui est fait... Enfin, à grande échelle, j'ai envie de dire, par exemple, comme les AED, souvent, on les voit comme... Donc, ils s'occupent de l'administration, etc. Enfin, de l'administration, de la vie scolaire et tout. Enfin, pardon, le lapsus révélateur. Non, je rigole. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour illustrer, moi, je fais partie d'une association et tout, qui accueille des jeunes, voilà. Et donc, dans cette association, il y a vraiment des moments qui sont dédiés à la parole, enfin, qui sont dédiés à... Bon, maintenant, il y a un binôme d'accueil qui va vous accueillir, il y a un binôme qui va vous accueillir pour pouvoir parler, c'est le moment et tout. Et en fait, je pense, enfin, j'ai vraiment pu voir que ça aide énormément et que, à un moment donné, il y a des binômes qui sont tout seuls, qui attendent pendant 20 minutes parce que personne n'ose y aller, mais peut-être que, je sais que ça sert énormément, que des fois, il suffit de prendre un peu de courage, mais peut-être ça peut permettre de prendre conscience que, ah oui, purée, peut-être que j'ai besoin de parler, en fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution qu'il faut apporter au lycée, etc. Mais c'est quand même... à partir du moment où il y a quelque chose qu'on sait qui est disponible et qui est plutôt chaleureux, qui est connu de tous et qui peut peut-être accueillant, etc., peut-être que ça peut délier les langues et faire en sorte de peut-être plus parler. Enfin, voilà.
D'accord. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, je pense qu'on est d'accord pour dire que la place des sentiments au lycée, c'est quelque chose de très complexe, qui est difficile à gérer parce que ça mélange à la fois le personnel au professionnel. Et il y a aussi ça. Je dirais que ça nous impacte beaucoup, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et vu qu'on est dans un cadre scolaire, on essaye de le gérer au maximum. Donc, c'est un sujet très compliqué auquel on pourrait parler, je pense, auquel on pourrait passer pas mal d'heures vu qu'il y a beaucoup de choses à développer dessus. En attendant, vraiment, je vous remercie d'avoir répondu aux quelques questions que je vous ai posées. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait part chacun de vos expériences, vos avis et vos choix, je sais pas.
Merci à toi.
Ouais, merci.
Merci de ce partage émotionnel ensemble.
C'était très drôle.
Donnez-nous la main et chantons.